signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Que se passe-t-il dans les universités américaines et par contre-coup ici ? Assiste-t-on, comme on le dit depuis quelques semaines, à un remake des grandes manifestations contre la guerre du Vietnam, à une renaissance de la contre-culture, ou à la suite de cette époque, ou encore à un phénomène entièrement inédit ? S'agit-il seulement d'un mouvement organique né de la colère des étudiants dans les universités, ou bien d'une opération montée par des groupes chevronnés, ou bien un peu tout ça en même temps ? Une plainte déposée la semaine dernière par plusieurs des familles des victimes du 7 octobre aux États-Unis contre l'une des principales association étudiante a fait émerger quelques éléments d'une enquête qui est en train de démarrer et dont la presse américaine a commencé de s'emparer. On va essayer de faire le point sur tous ces éléments aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, Eva Illouz, bonjour. Si vous m'entendez.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes directrice d'études à l'EHESS, vous avez écrit Le capital sexuel en 2023 au Seuil, Les émotions contre la démocratie, premier parallèle, aux éditions Premier parallèle en 2022, un livre assez actuel. Vous êtes aussi l'auteur d'un article sur Judith Butler paru dans Le Monde après les déclarations de Judith Butler sur le Hamas qui a été très remarqué. Et vous étiez cet automne à Columbia. Vous nous parlez là de Tel Aviv. Denis Charvit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur de sciences politiques à l'Open University d'Israël. Vous avez écrit plusieurs livres, dont Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise les passions. Vous êtes aussi enseignant à Sciences Po Menton. Vous l'étiez cet automne et vous étiez aussi cet automne à New York, à Columbia, je crois.
Non, j'étais à l'Université du Vermont.
À l'Université du Vermont, voilà. Et Julie Girard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancière. Vous avez écrit Les larmes de Narcisse chez Gallimard cette année. Qui est un roman qui anticipe assez sur, enfin qui montre quelque chose de l'état d'esprit des étudiants et de ce qui se passe en ce moment à New York où vous vivez. Et vous avez aussi écrit un article dans le Figaro dont on va parler tout à l'heure sur ce qui se passe aux États-Unis. Je vais peut-être commencer par vous, Eva Illouz. Comment vous appréhendez la situation dans les universités américaines en ce moment ? Qu'est-ce qu'on peut, d'après vous, ça ressemble à quoi ? Est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà connu ou pas du tout ? Si vous m'entendez ?
Alors, oui. Le 15 avril, oui, tout à fait.
Okay.
J'espère que vous m'entendez aussi.
Oui, oui.
Le 15 avril, j'étais à l'université de Yale où j'étais invitée à donner des conférences. Et je me promenais dans le square central de Yale qui s'appelle Beinecke Plaza. Il y avait des tentes qui venaient d'être montées avec des centaines d'étudiants dont certains avaient déclaré une grève de la faim en solidarité avec ce qu'ils appellent le génocide de Gaza et en appelant leur université à désinvestir de toute compagnie qui aurait des liens avec Israël. Alors, je dois dire que même moi qui m'oppose farouchement à la politique de Netanyahou et notamment à son refus de créer un État palestinien et au fait qu'il a continué à construire des colonies, j'ai été très frappée par le fait que ce conflit qui se produit très loin des États-Unis semblait faire partie intégrante de l'identité morale et politique de ces étudiants. Je me suis dit qu'il y a finalement très peu de conflits lointains dans le monde qui provoquent ce genre de passion morale. Le génocide dans la partie est de la République démocratique du Congo qui a fait des millions de morts et des millions de réfugiés n'a pas, semble-t-il, provoqué sur les campus américains ou autres les mêmes réactions alors que le groupe M23 a fait des carnages et des ravages. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il me semble qu'il y a un mystère qu'il faut élucider. Mmh. Cette ferveur morale n'est pas liée à l'échelle objective des catastrophes, mais à autre chose, à la place qu'Israël et les Palestiniens sont venus occuper dans notre imaginaire, un imaginaire qui est complètement disconnecté de l'histoire de cette région. Ces étudiants empruntent un imaginaire révolutionnaire pour défendre finalement un groupe terroriste qui est le Hamas, Et ils confondent conflit militaire et colonisation. Ils croient qu'Israël, c'est l'apartheid, alors qu'Israël est un État et non pas un régime. L'apartheid était un régime. Personne n'avait demandé à la minorité blanche africaine de repartir en Hollande ou en Angleterre, mais on demande à un État juif, à majorité juive, de partir. Il y a donc là un mystère intellectuel, si vous voulez, qu'il faut éclaircir. Et je crois qu'il est dû au fait, je crois qu'il y a des raisons institutionnelles, organisationnelles profondes. Je veux dire par là qu'il y a des organisations palestiniennes et iraniennes qui travaillent depuis deux décennies à ce dérèglement sémantique auquel on assiste.
Oui, alors on va y venir.
Au fait que les étudiants... Oui, je pensais. Il est lié au fait que les étudiants croient rejouer les drames politiques de 68, où ils s'étaient opposés au Vietnam, ou alors où ils étaient pour le boycott contre l'Afrique du Sud. Mais il me semble qu'il s'agit là de quelque chose de très différent. Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'en parle, mais il me semble qu'il y a des différences très importantes avec, par exemple, mai 68.
Alors, on va en parler.
Dites-nous
rapidement, oui, quelle différence est-ce que vous voyez entre les années 60 et les étudiants des années 60 et ceux d'aujourd'hui?
Je ne sais pas si je vais être rapide, mais j'en vois un certain nombre. Mm-hmm. D'abord, je voudrais dire qu'en 68, plus de 700 étudiants avaient été arrêtés par la police et qu'ils avaient été frappés par des bâtons. Rien de tel ne s'est passé cette fois-ci, puisqu'on a livré de la nourriture aux étudiants en tenant compte de leurs préférences alimentaires. Les étudiants qui s'étaient barricadés dans le Hamilton Hall. Et la deuxième chose, c'est que les étudiants ont étudié les manifestations précédentes. Ils les ont étudiées, ils ont essayé de les répéter. Il y a une sorte de déploiement scénique qui est conscient et travaillé précisément pour invoquer cet imaginaire révolutionnaire, puisque Hamilton Hall a été le lieu historique où les étudiants en 68 se sont barricadés et ont pris en otage un doyen. Et donc c'est une sorte de répétition d'actes révolutionnaires qui, eux, à l'origine, étaient spontanés et qui, j'ai envie de dire, étaient véritablement révolutionnaires. Une troisième différence, c'est que les camps politiques et la langue politique, en 68, étaient très claires. Les étudiants osaient se révolter contre l'université qui n'était pas elle-même étrangère à la ségrégation, puisque Columbia voulait construire un gymnase qui aurait ségrégué entre blancs et noirs. Or, aujourd'hui, l'université a énormément changé. C'est une université qui déploie un nombre incroyable de ressources pour protéger les minorités du racisme et du sexisme et de la transphobie. Ce n'est plus du tout la même institution. Les étudiants y sont, on peut dire, même surprotégés. C'est une université qui a complètement intégré les valeurs progressistes et qui ne représente pas, comme à l'époque, les dominants. Mmh. La quatrième différence, elle est de taille, c'est peut-être la plus importante, je crois, c'est qu'il s'agit désormais d'un conflit entre, d'un côté, tous les groupes qui soutiennent la Palestine, des Afro-Américains, des queers, des musulmans, d'un côté, et ces groupes-là sont contre les juifs sionistes qui se sentent menacés, parce que beaucoup de slogans qui sont proférés soutiennent le Hamas et parce qu'ils appellent à la destruction du seul État juif dans le monde. Donc, bien sûr, quelle est la suivante? C'est qu'il s'agit autant d'un combat contre les autorités de l'université que d'un combat contre une autre minorité qui se sent menacée. Ça, c'est une nouveauté. Ce combat de minorités entre elles, c'est une nouveauté. Je vous rappelle quand même que les Juifs avec les Américains constituent la plus petite minorité aux États-Unis.
Je vais intervenir pour aller dans le sens d'une mise en scène des années 60. Le Wall Street Journal sort cette semaine, enfin ce week-end, une enquête sur la façon dont en fait plusieurs groupes ont littéralement entraîné les étudiants et parmi ces groupes il y a des gens de Black Lives Matter, il y a des anciens Black Panthers aussi qui ont organisé des teach-in pour leur apprendre à retrouver l'argent de manière faire des fundraising pour trouver les tentes normalement pour les installer, et également des manuels ça c'est The Free Press qui sort cette information là des manuels ont été écrits et partagés par le biais de groupes de discussion téléphonique avec des étudiants de tout le pays pour encourager le militantisme et demander aux manifestants d'enfreindre les lois, de saisir les bâtiments, de les vandaliser, etc. Il y a un guide appelé The Arrest Primer qui enseigne aux manifestants à résister physiquement à l'arrestation et dans certains cas à agresser les policiers ou à leur lancer des projectiles. Chaque désarrestation étant considérée comme une micro-intifada qui peut se propager. Je voudrais juste, avant de donner la parole à Julie Girard et à Denis Charbit, je voudrais juste qu'on écoute un extrait de l'ambiance qui règne dans les universités. Deux choses différentes. D'une part, une manifestation et d'autre part, la fameuse demande de nourriture qui est quand même, qui vaut son pesant d'or.
Well, I guess it's ultimately a question of what kind of community and obligation Columbia feels it has to its students. Do you want students to die of dehydration and starvation or get severely ill, even if they disagree with you? If the answer is no, then you should allow basic, I mean, it's crazy to say because we're on an Ivy League campus, but this is like basic humanitarian aid we're asking for. Like, could people please have a glass of water?
Voilà, alors le premier slogan, c'est « Yémen, Yémen, make us proud », rends-nous fiers, détruit un autre navire, coule un autre navire. C'est en référence aux brigades Houthis, aux milices Houthis qui sont donc des soutiens de l'Iran. Et la deuxième, c'est l'intervention, la conférence de presse dans laquelle la porte-parole des étudiants demande que de l'eau et de la nourriture soient apportées aux étudiants qui se sont eux-mêmes barricadés si on veut éviter qu'il y ait des morts et des étudiants qui meurent de faim et qui soient déshydratés, apporter des croissants sans gluten étant considéré comme une action humanitaire. Julie Girard, sur cet état d'esprit particulier de la part des étudiants.
Oui, je crois que c'est très représentatif de ce qui se passe aujourd'hui sur les campus. Pour ma part, je pense que l'identitarisme, l'idéologie identitaire qui a cherché à essentialiser les étudiants depuis un peu plus de 10 ans, a été un terreau fertile et aussi un logiciel que reprennent aujourd'hui ces manifestants pour créer de la sympathie pour leur cause et aussi pour montrer que d'une certaine manière, c'est comme si le combat pour la Palestine était le combat de tous les maux que cette idéologie tente d'éradiquer. Faisant d'Israël la mère de tous les maux, c'est-à-dire le capitalisme, l'oppresseur blanc, les dominants, donc réutilisant cette dialectique. Et je crois que c'est... évidemment palpable depuis le 7 octobre, mais que ce qui arrive aujourd'hui est dans la droite ligne de ce qu'on voit dans les universités depuis un certain nombre d'années.
Denis Charbit.
Vous savez, je voudrais commencer, ça va peut-être un peu vous surprendre, mais par faire un plaidoyer pour les manifestations. Et je vous dis ça parce qu'on l'a déjà oublié, on dit qu'on oublie le 7 octobre, mais on a oublié que de le début de l'année 2023, les Israéliens étaient les champions des manifestations. Toutes les semaines, tous les samedis soirs, non pas seulement à Tel Aviv, et Eva Illouz y a certainement participé au même titre que moi, pendant près de une trentaine de semaines. C'est vrai que le 7 octobre a arrêté, et encore ça reprend aujourd'hui. Et donc, moi, je n'ai absolument rien contre les manifestations. Au contraire, libertarisme un peu individuel, de répéter des slogans comme ça, je reconnais que je ne suis pas toujours à l'aise. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose, enfin, je veux dire, c'est un des plus belles expressions de la démocratie. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, et même en France, en fait, j'ai constaté, vous me démentez si j'ai tort, ce ne sont pas des manifestations, Ce sont des occupations de lieux. Et de ce point de vue-là, ça n'a rien à voir. Ce sont effectivement des militants. J'ai pas entendu, moi, depuis octobre, des manifestations de la République à la Nation, où on appellerait tout le peuple français, étudiants également, mais pas uniquement, à manifester pour la Palestine. Et à cet égard, je crois que quand on fait la comparaison avec les manifestations au Vietnam, on rate quelque chose. Alors, il y a peut-être eu occupation à Minton Hall, mais c'était un aspect des événements. Le plus important étant bien sûr celui des grandes manifestations que là, notamment des droits civiques dans les années 60. On n'a pas ça, absolument pas en tout cas, ici en France et il me semble également aux États-Unis. J'ai assisté à Burlington. Il y avait peut-être 100 personnes, ce n'était pas des grands défilés. Donc de ce point de vue-là, il y a cette différence aussi, presque je dirais phénoménologique, qu'il faut mettre en avant. Je voudrais dire également que je ne suis pas certain qu'il faille considérer que quiconque est dans cette guerre favorable aux Palestiniens est forcément antisémite et antisioniste.
Non, bien sûr.
Mais le fait est qu'on voit bien la tentative de récupération par les éléments antisionistes et antisémites. Et là, il y a de quoi être inquiété. Donc, moi, je fais la distinction. Je peux bien imaginer que dans cette affaire-là, les choses sont plus complexes. Et puis, je voudrais dire peut-être ici, peut-être mon désarroi pour terminer, devant ce qui se passe depuis 6 mois. Je dirais que je pense que s'il y a un moment dans l'histoire où toute identification à une des deux causes devrait être compliquée, complexe, ne pas aller de soi, c'est en ce moment. Moi, je reconnais que quand on est pro-israélien comme ça, spontané, total, identifié, j'ai un peu de mal. Il y a quand même une histoire, il y a quand même une situation en Cisjordanie. La conduite de la guerre, elle n'est pas totalement satisfaisante. Mais la même chose pour la cause palestinienne. D'autant qu'on sait bien que toutes ces occupations, elles n'ont pas commencé après l'hécatombe des civils palestiniens dans la bande de Gaza. Elle a commencé au lendemain du 7 octobre. Et je dirais donc, de la même manière, être favorable à la cause palestinienne, comme ça, comme si tout était clair et net, alors qu'elle est beaucoup plus compliquée dans la mesure où c'est le Hamas, finalement, contre qui on fait la guerre. C'est ça qui, pour moi, est assez attristant dans la situation où nous sommes, cette polarisation.
Eva Illouz, je vais vous donner la parole dans une seconde. Je voudrais citer tout de même quelques-uns. Vous parliez tout à l'heure des organisations qui aident à la mobilisation sur les campus, Eva Illouz. L'enquête du Wall Street Journal met en exergue en particulier le NSGP, Students for Justice in Palestine, qui est une organisation fondée en 1992 par Atem Bazian, qui est le principal responsable de American Muslims for Palestine, et qui est quelqu'un qui est lui-même considéré comme un activiste largement antisémite. Hein. En 2002, il organisait des manifestations de soutien à des étudiants arrêtés après avoir perturbé une journée de souvenir de la Shoah. Il disait « Regardez les noms juifs sur les bâtiments de l'école, regardez le type de noms sur les bâtiments autour du campus et décidez qui contrôle cette université. En 94, il a été un organisateur et conférencier invité lors d'une conférence de presse pour soutenir un mur représentant le visage de Malcolm X entouré de signes d'étoiles jaunes de David, de crânes et d'os croisés et de mots sans africains, etc., etc. C'est véritablement un activiste et le Student for Justice in Palestine est la principale organisation qui compte 300 sections à travers les États-Unis. C'est l'un des principaux organisateurs de ce qui se passe et ils ont ouvert un bureau à Sciences Po à Paris quelques jours avant. Quelques semaines avant le 7 octobre, leur premier communiqué date du 11 octobre à Paris pour dire qu'ils expriment leur gratitude sincère et leur confiance pour la confiance et le soutien qu'ils ont reçu pour ouvrir leur bureau. Et ça, c'est destiné visiblement à l'administration de Sciences Po. Et pour dire ensuite qu'ils vont organiser des séries d'événements qui serviront de plateforme de dialogue, d'éducation et d'engagement qui nous permettront d'approfondir les complexités de la question palestinienne, disent-ils. Et aussi, j'utilise le terme complexité. Mais on voit bien que le SGP est la principale structure qui organise qui encadre les étudiants et qui est notamment financée par le Qatar, qui par ailleurs, est aussi le premier investisseur étranger sur les campus américains. Eva Illouz.
Oui, alors, ce n'est pas vraiment ma spécialité, mais j'ai envie de dire que ça remonte à un peu plus loin encore. En 1975, vous vous rappelez sans doute que les Nations Unies ont voté une résolution 3379 à l'Assemblée Générale déclarant que le sionisme était une forme de racisme. Mais ça, c'était rien à côté de ce qui s'est passé à la conférence de Durban de 2001. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'une des conférences préparatoires à la conférence générale s'est tenue à Téhéran. Dans cette conférence préparatoire, on n'a pas autorisé les membres juifs d'y accéder. Mmh. Ils ont été exclus. Et pendant cette conférence préparatoire, on a, c'est le moment où on a mentionné que le sionisme était le racisme et qu'on s'est focalisé sur le sionisme comme pratique de la suprématie raciale, comparant Israël au nazisme. Donc, il y a eu une sorte de décision, si vous voulez, stratégique qui a été prise. Et quand on est arrivé à la conférence générale, et tous ceux qui ont participé ont raconté après leur choc profond, des pamphlets, des protocoles des sages de Sion ont été distribués. Il y avait des affichettes avec la photo de Hitler et comme sous-titre que se serait-il passé s'il avait gagné ? S'il avait gagné, Israël n'aurait pas existé. Et le mouvement BDS, qui donc aujourd'hui structure ces manifestations, le mouvement BDS qui a formellement commencé en 2005, mais qui a commencé en fait bien avant, qui a commencé justement au lendemain de la conférence de Durban, est né de cette conférence. Mmh. Et la première lettre qui a été diffusée par le BDS avait été signée par 100 organisations palestiniennes et par le Council of National Islamic Forces in Palestine, qui en fait était une entité qui coordonnait les attaques terroristes de l'OLP. Donc, il n'y a pas le moindre doute qu'il s'agit là d'une organisation antisémite. Ensuite, vous parlez Students for Justice in Palestine, SJP. Il y a aussi AMP, American Muslim for Palestine. Et puis, il y a une troisième organisation qui s'appelle Saridun, qui a été fondée aux États-Unis aussi et qui se concentre sur la libération des prisonniers accusés de terrorisme dans le monde entier sous couvert de solidarité internationale et de combat pour la justice. Et les American Muslim for Palestine, par exemple, forme les jeunes à l'activisme antisioniste. C'est une organisation très extrémiste. Hatem Bazian, que vous avez cité lui-même, qui est professeur à l'université de Berkeley et des colonialistes, a tenu souvent des propos antisémites. Et la National Justice National Students for Justice in Palestine compte aujourd'hui 300 antennes aux États-Unis. Oui. Donc, c'est dire qu'il s'agit d'une grande force. Voilà.
Alors, et la question qui se pose, et là je pose la question à vous trois, c'est comment se fait-il que les administrations des universités laissent cet activisme proférer. Je ne parle pas de les manifestations ou de la colère des étudiants, mais on voit par exemple à Columbia un professeur Joseph Massad qui a enseigné pendant des mois un cours intitulé Palestinian Israeli Politics. Après s'être félicité publiquement du 7 octobre, un des principaux leaders du mouvement, jusqu'à ce qu'il soit exclu de Columbia après sa vidéo, Kimani James, qui avait déclaré en janvier, il y a une vidéo qu'il a mis lui-même en ligne dans laquelle il dit estimez-vous heureux que je n'ai pas tué de sionistes jusqu'à présent. La vidéo c'était une visioconférence qui était organisée avec l'administration de Columbia. L'administration n'a pas réagi et elle n'a réalise que quand la vidéo a été republiée tout récemment, la semaine dernière, et à ce moment-là, il s'est fait exclure. Entre-temps, il est devenu un des principaux leaders du mouvement. Comment est-ce qu'on explique cette complaisance des administrations, voire des profs ?
Je crois que il y a effectivement un problème au niveau de la direction des universités parce que justement cette idéologie victimaire, cet identitarisme a créé le climat, un climat très complexe sur ces universités où pendant des années on a voulu soutenir toutes les causes qui pouvaient être amenées sur ces campus. Et qu'une deuxième, la deuxième dimension également, c'est que y a la question aussi du premier amendement aux États-Unis, et donc beaucoup d'universités ont du mal à se positionner par rapport à cette liberté d'expression qui est presque absolutisée aux États-Unis et qui, par conséquent, permet de dire des choses qui paraîtraient invraisemblables en France.
Oui, mais enfin, donc, si quelqu'un disait « Vive le Ku Klux Klan à Columbia », il serait immédiatement exclu.
Il y a eu une faillite de la direction, c'est ça. Et on l'a vu dès le 7 octobre avec Claudine Gay à Harvard, qui ne s'est pas positionnée au lendemain du pogrom du Hamas, alors que ça fait des années que l'université se positionne sur des questions sociales, politiques, etc. Donc clairement, il y a une faillite des universités. Et je pense que ce n'est que le début de la crise et que... Il va falloir mettre tous ces dirigeants devant leurs responsabilités.
Denis Charbit, vous avez enseigné à Menton, à Sciences Po Menton, sur le conflit avec des étudiants qui ont leurs opinions et qui sont tout aussi en colère que d'autres. Et ça s'est très bien passé.
Ça s'est très bien passé parce que là, c'est la connaissance. Là, je disposais de 2 fois 12 heures, hein, 24 heures pour enseigner le conflit israélo-palestinien. C'est sûr qu'ils étaient très surpris de savoir que j'étais israélien. Je leur ai fait entendre la diversité des points de vue. On les a discutés. Il y avait une atmosphère un peu ping-pong, je dirais, souvent en classe. Mais là, on se donne les moyens. On n'est pas, effectivement, dans une sorte d'agora où on s'envoie des slogans. Pour revenir sur la question que vous avez posée, je pense effectivement qu'il y a 2 choses. La première, et elle n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que on n'est pas, je dirais, le libéralisme, hein, qui est censé être colorblind, hein, il est censé être aveugle. Eh ben non, il n'est pas de la même manière aveugle et sourd à des formulations, des slogans racistes, Ku Klux Klan et autres, et à des formulations qui viennent de l'extrême gauche. C'est sûr qu'on a. Regardez le débat qu'on a eu il y a 20 ou 30 ans sur communisme et nazisme, goulag et la guerre, enfin les camps de concentration et camps d'extermination, c'est sûr que voilà, le libéralisme au sens large du terme a du mal à concevoir que les deux expressions sont identiques, l'une est blâmée, exclue, l'autre peut être tolérée justement au niveau de la liberté d'expression. Donc on a, il faut le reconnaître, une liberté d'expression à géométrie variable. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît beaucoup plus profond. Et puis, bien évidemment que dans le contexte du conflit israélo-palestinien, avec la situation d'asymétrie, moi j'ai entendu même mes étudiants me dire, attendez, Israël existe, l'État de Palestine n'existe pas. À partir de là, je dirais, l'identification se fait assez spontanément du côté palestinien, ce qui est audible et ce qui peut être entendu, à ceci près que, voilà, je dirais presque objectivement la question du rapport entre antisionisme, antisémitisme. Je veux dire, quand on parle d'Israël, on parle des Juifs, on parle de l'État juif, on parle des Juifs. Donc, bien évidemment qu'ils doivent se poser la question de leur rapport aux Juifs en général, aux Juifs d'Israël en particulier, et je dirais qu'une des choses qui me paraît là aussi les plus dramatiques, c'est comment ça s'étend et ça inclut les Juifs de la diaspora.
Alors, il y a une chose dont on se rend compte, c'est le niveau intellectuels de ces universités, qui sont quand même des universités d'élite, on se rend compte que les gens ne savent absolument rien de la géopolitique ou même de l'histoire. Et c'est là-dessus probablement que prolifère la propagande. Toujours selon le Wall Street Journal, en mars à Columbia, a été organisée par les occupants une formation Resistance 101 avec un groupe qui s'appelle Sami Doun. Je voudrais qu'on écoute la porte-parole de Sami Doun dans un discours qui s'appelle Charlotte Cates. Dans un discours, il faut l'écouter dans la longueur parce que elle dit beaucoup de choses et je vais le traduire après.
The Popular Front for the Liberation of Palestine is not a terrorist organization. Hezbollah is not a terrorist organization. These are resistance fighters. These are heroes. They are not terrorists. They are resistance fighters. They are freedom fighters. And they are heroes for a new world. So I want all of us to not be
kids, and to be loud and clear about it, and to say that it is true that October 7th changed the world, sacrifice for all of us and for a better world. Yes, with their guns, with their missiles, and with their rockets, but also with their medicine, with their books, with their love, and with their hope and joy for the future of a liberated Palestine and for the future of humanity and for one resistance front that stretches from Palestine to Yemen, to Syria, to Iran, to Iraq, to every single one of us that is committed to see the end of Zionism, the end of imperialism, and victory for Palestine!
Alors, je voulais qu'on l'entende dans la durée parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cet extrait et je vous donne tout de suite la parole à Eva Elius après. Elle dit le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah ne sont pas des organisations terroristes, ce sont des résistants, des combattants de la liberté, des héros pour un nouveau monde. Les résistants donnent l'exemple avec leurs armes et leurs missiles et avec leur espoir pour une résistance qui s'étend, et c'est ça que je trouve très intéressant, de la Palestine au Yémen, à la Syrie, à l'Iran, à l'Irak. Pour la fin de l'impérialisme. C'est-à-dire qu'elle se range officiellement du côté de l'Iran et de la Syrie. Et c'est une organisation qui a organisé une formation à Columbia pour les manifestants. Je trouve ça assez fascinant. Eva Elius.
Oui, alors je voulais un peu rebondir sur ce qui avait été dit un peu avant et je reviens à ce que vous dites. À propos de l'identitarisme, alors je suis d'accord, mais je dirais les choses un tout petit peu différemment. Les universités américaines sont face à une énorme contradiction. Parce que on sait qu'il y a eu beaucoup de cas, comme par exemple celui en 2018 où une professeure à Yale a été forcée de partir quand elle avait envoyé un mail à des étudiants leur disant qu'ils étaient libres de se déguiser comme ils le voulaient à Halloween, même si leur déguisement pouvait en offenser certains. Mmh. Donc il s'agit d'une université, si vous voulez, qui contrôle de façon extrêmement, je dirais, étroite ce qui peut être dit et le niveau d'offense qu'on peut exercer sur des minorités. Et donc l'université américaine protège de façon fanatique les sensibilités de tout et chacun. Mais il s'agit aujourd'hui de la communauté juive qui est en face. C'est la première fois, en fait, que l'université américaine est face à la situation suivante, où il y a des minorités qui déclarent avoir des sensibilités opposées, qui s'opposent l'une à l'autre. Et j'ai envie de dire que l'université est maintenant prise à son propre piège, puisqu'il y a une compétition des identités et des minorités. Et c'est un peu à ça que la politique des identités nous mène. À un moment donné ou à un autre, il y a un combat des minorités.
Oui.
Donc ça, c'était une chose que je voulais signaler. La deuxième chose que je voulais signaler, c'est que ce qui se passe, c'est l'aboutissement d'une séparation et même d'un antagonisme profond entre la communauté afro-américaine et les juifs aux États-Unis. Je vous rappelle que dans les années 60, les juifs et les noirs faisaient combat commun pour les libertés civiles. Et depuis, il y a eu énormément de changements et on peut dire qu'aujourd'hui, ces deux communautés sont souvent, pas toujours, mais souvent hostiles. Et c'est à ça qu'on assiste aussi, puisque par exemple, le 7 octobre, des antennes de Black Lives Matter n'ont pas réagi au 7 octobre, ou bien au contraire, l'ont célébré. Donc, il y a une sociologie, si vous voulez, une sociologie des relations entre les Afro-Américains et les Juifs qui sous-tend ce qui se passe en ce moment. Ensuite, pour revenir à ce que vous disiez, alors Charlotte Cates, elle est interrogée là par la police canadienne pour appel au terrorisme, ce qui me semble être très bien. Et je dirais que ce à quoi on a assisté, c'est véritablement une sorte d'ahistorisation d'Israël, du conflit israélo-palestinien.
Oui.
et une sorte de traduction de ces deux catégories en catégories ontologiques du bien et du mal qui s'affrontent de façon quasi religieuse. Donc, on voit plus du tout qu'il s'agit d'un conflit militaire, en fait, entre deux groupes qui ont les mêmes revendications sur une guerre. On voit pas du tout que le 7 octobre était un acte de guerre. On voit pas que le Hamas était un appareil d'État, quasi appareil d'État à Gaza. Ça veut pas dire qu'on peut pas critiquer l'occupation ou la politique israélienne, bien sûr que si. Mais c'est très différent de la démonisation et que, je dirais, du fait qu'on est arrivé à ce que, je crois, Pierre-André Taguieff appelle un antisionisme ontologique.
Mais ce qui est intéressant,
on appelle un antisionisme transcendantal.
Oui,
c'est-à-dire qui est complètement déconnecté de l'histoire.
Ouais. Voilà. C'est ça qui est central. Oui. C'est la notion d'ahistorisation. Effectivement, Julie Girard, on peut se demander si ce que les conservateurs appellent le wokisme et ce que Yascha Mounk appelait la synthèse identitaire dans son essai, quand il est venu ici à cette émission, ne favorise pas l'ahistorisation d'une certaine manière. Parce qu'on raisonne en termes, on raisonne en catégories identitaires et plus du tout en processus historique. Ou alors c'est pour répéter toujours la même chose. Il y a l'impérialisme, le capitalisme et le patriarcat qui ont été fondés tout de suite et puis on n'en est jamais sorti, quoi.
Oui, exactement. Je crois que tout est essentialisé, ramené au présent, par ailleurs, l'acquisition de connaissances passe en seconde ligne, derrière la défense des principes de justice sociale. Quand vous voyez que Claudine Gay a été recrutée d'abord sur le fondement de sa conformité au DEI de Harvard.
Claudine Gay étant l'ancienne doyenne de Harvard, qui a dû démissionner, et le DEI étant l'administration...
Diversité,
Equity and Inclusion, qui est l'administration chargée de faire appliquer le règlement des universités, c'est-à-dire en gros le règlement moral.
Exactement. Et qui sont très gros. Vous voyez, à l'université par exemple du Michigan, il y a à peu près 241 membres du DEI pour un budget de 30 millions de dollars. Donc ce sont des gens très influents qui sont prêts à recruter des professeurs de mathématiques d'abord sur le fondement du DEI. Donc on peut s'interroger sur quel savoir on transmet à ses enfants aujourd'hui, parce que quand la connaissance, la raison, le fondement scientifique passe au second plan, on se retrouve avec des situations comme aujourd'hui.
Il y a un des profs de Columbia, le professeur Mohamed Abdou, ancien chercheur à l'université de Cornell, théoriquement chercheur interdisciplinaire des études autochtones, noires, critiques et islamiques, je cite Cornell, se définit comme anarchiste musulman et a enseigné à Columbia un Decolonial Queerness and Abolition, qui est quand même difficile à traduire en y mettant du sens, et qui en fait en a profité pour expliquer que les résistants qui faisaient partie du Hamas comptaient moins de 1500 habitants et 1500 combattants, et que pour changer le monde, il faut pas tant de monde que ça. Il suffit d'être vraiment déterminé. Je le cite parce que sur la historicisation, il a dit ça à une table ronde qui était intitulée Palestine 1492. Colonialisme, solidarité et résistance. C'est-à-dire qu'ils font l'amalgame entre l'arrivée de Christophe Colomb aux États-Unis et la Palestine, de la même manière que ici on fait le lien direct avec la guerre d'Algérie, par exemple. Denis Charvier, oui, là-dessus, oui. Très vite, puis on arrive à la fin de l'émission.
Voilà, moi je dirais effectivement que c'est pas seulement une grande ignorance, c'est une utilisation, une manipulation de références historiques, et c'est surtout un biais. Il arrive avec un biais qui est totalement négatif, fondé sur des catégories morales. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est par exemple l'invocation, mais je dirais quasi-messianique, du droit international. Voilà. Et moi, j'entends, il y a quelque chose de, bon, pourquoi pas,
sans dire d'ailleurs quelles sont les décisions qui sont rendues par la Cour internationale.
Exactement, d'une part, ou en les trafiquant, ou en les manipulant, disant complètement autre chose, etc., notamment sur la prévention du génocide en janvier dernier. Et ce qui est assez frappant, c'est de ne pas voir les dégâts que cela fait. Et moi, je dois dire, et pour moi, c'est vraiment l'expérience que j'en ai, et aux États-Unis et en France depuis que j'y suis, 3 mois à peine. C'est la solitude. On parle beaucoup des étudiants juifs. Mais on ne parle pas des juifs adultes, enfin, je veux dire, qui sont dans la vie active, des profs, ouais. mais même en dehors de l'enceinte universitaire, qui me disent, qui me racontent, qui me prennent à témoin en me disant, voilà, mon fils prend peut-être changer de nom. On est en France, en 2024, et on évoque cette possibilité pour pas être identifié comme juif, et donc sioniste, et donc avoir des difficultés à s'insérer, à s'intégrer. J'étais surtout frappé, non pas tant par des juifs qui ont une conscience très affirmée, non, au contraire, ceux qui... Voilà, sont juifs, parfois issus de mariages mixtes, et qu'on renvoie leur judaïté, alors que jusqu'à présent, même pour eux-mêmes, ça ne posait jamais de problème. Et ce qui est le plus grave, et je l'analyse par rapport à la situation française, on a beaucoup parlé des États-Unis, c'est que c'est quoi la mémoire juive en diaspora ? C'est d'une part la peur de la foule, Et vous avez ce sentiment, voilà. Vous savez, ça me rappelle ces belles pages de Peggy dans notre jeunesse à propos de la communauté juive. Dire on n'aime pas qu'on parle de nous. Et deuxièmement, c'est par rapport aux universités, le sentiment d'être lâché par les autorités. Si les juifs sont lâchés par la foule et lâchés par l'autorité, quel est leur avenir ? Vraiment, ça m'a beaucoup surpris. Je ne croyais pas entendre cela comme ça par des témoins de gens que je ne connais pas, qui sont venus me voir pour me raconter leur situation et leurs conditions.
On va finir là-dessus. Le Parisien fait d'ailleurs sa une sur un sondage qui est publié par l'American Jewish Committee aujourd'hui, je crois, sur le sujet, sur cette peur.
Répercussions sur la commission. Oui.
This garden that I built for you, they're just sitting now and here. I will never leave it, dear. I could not bear to return and find it all untended, where the trees all bended low. This garden is our home, dear, and I got nowhere else to go. So bring it on.
Voilà, merci Julie Girard. Je rappelle le titre de votre livre, Les larmes de Narcisse. Merci Eva Ilyouz d'avoir été là depuis Tel Aviv. Le capital sexuel est le titre de votre dernier livre avec Dana Kaplan au Seuil. Merci Denis Charbit. Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise des passions au cavalier bleu, sorti l'année dernière. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzman, assistée de Aurélie Marseille, avec à la technique Alex Dang et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.